Tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'hommes. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutus.
Oh, arrêtez! Il suffit de lui mettre une balle dans la tête et c'est lui qui est foutu. Pas vrai?
Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
You're gonna need a bigger podcast.
Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour nos échappées prédatrices dans le monde de la Sharkspotation. Retour à la formule classique après notre épisode spécial sur les comédies musicales inspirées des Dents de la Mer, qui a d'ailleurs reçu un accueil assez favorable, je vous en remercie. J'en profite d'ailleurs pour m'excuser au passage des petites sautes de son sur certains extraits, que je m'explique mal, qui ont l'air d'avoir lieu lorsque j'enregistre le rendu final sur mon logiciel de montage. Bon, je compte très bientôt investir dans un nouvel ordinateur, peut-être dans de nouveaux programmes. J'espère améliorer grandement la qualité générale de l'ensemble. En tout cas, nous revoici pour traiter deux films. Alors je vous rappelle quand même rapidement les principes de l'émission. Nous avons tiré au sort deux films de requins dans la longue cohorte du genre. Et nous allons les analyser avec toute la rigueur pédagogique qui s'impose pour en déterminer les qualités squalo-cinématographiques ou capacités squalographiques. Il s'agit de l'originalité, de l'histoire, des personnages, de la réalisation, de l'ambiance, de la qualité des requins. Ce qui nous permet à chaque fois de leur attribuer de 0 à 3 points, plus 2 points d'appréciation personnelle, on arrive à un total de 20, qui nous permet de les reclasser dans une des 5 catégories suivantes, incontournable au-dessus de 16, il n'y en a pas des masses. Bon au-dessus de 12, routinier au-dessus de 8, nul au-dessus de 4 et en dessous de 4, les à fuir. Pour retrouver tous les films que nous avons déjà traités dans les 26 précédents épisodes, eh bien je ne saurais trop vous conseiller de vous pencher sur la liste Sens Critique de Quentin, qui revient méthodiquement sur ce classement. Alors, cette semaine, nous avons un film de 1962, Tico et le requin, de Folco Quilici, et une production The Asylum beaucoup plus moderne dans la grande série des Sharknado, il s'agit du numéro 3, de 2015, par Anthony Seferante. Nous allons faire encore le grand écart entre deux films complètement différents. Alors, prêt à jeter à l'eau ?
I am Tico, the one with the shark. That's what they call me on our island of Tuamotu in the Pacific Ocean. Each man knows the fear that comes on fishing days at the sight of a shark. It's a fight without mercy. From the time I was a child, I dreamed of being a fisherman and having my own stories to tell. But my story turned out to be different from the others. It's so fantastic that even today, people wonder if it's only a legend.
I have a surprise for you. All right, but I'm starting to get tired of all this walking. Get your mask, John. He wants to play.
Now, thinking back over all the days of my life, that day seemed the most important.
Les requins sont nos amis, il faut les aimer aussi. Et ça fait du bien de voir enfin un requin sympathique après la pléthore de squales mangeurs d'hommes que nous avons traité tout au long de l'émission. Et aussi de se replonger dans un film à l'ancienne, puisque nous allons remonter en 1962 avec ce Tico et son requin, connu aussi sous le nom de Ticoyo et le requin. Un film de requin pour enfants. Tico est un jeune garçon qui vit sur une petite île polynésienne paradisiaque. Il rêve de devenir pêcheur comme tous les hommes de sa famille. Il est aussi très attiré par Diana, la fille du commerçant chinois qui vient acheter le copra et les perles produits sur l'île et qui revient des États-Unis avec son frère où elle a été éduquée à l'occidental. Lors d'une partie de pêche, Tico va découvrir un bébé requin coincé dans une petite poche d'eau sur le rivage. Et plutôt que de le tuer, ce qu'auraient fait tous les hommes de son village, il l'apprivoise et se met à jouer avec lui. Il le présente à Diana dans une petite crique protégée et le temps passe, heureux, où les enfants jouent avec Manidou, le petit requin. Mais quand vient la fin de l'été, sur la plage, Diana doit repartir aux États-Unis. Et comme Manidou le requin grandit, il doit aussi être libéré pour regagner la pleine mer. Une dizaine d'années sont passées. Tico est devenu un pêcheur accompli. Diana une belle jeune fille. Mais surtout, la vie traditionnelle et tranquille de l'île est en péril. Le frère de Diana, qui a pris la tête de l'entreprise familiale, est bien décidé à amener le progrès au pas de charge. En industrialisant la pêche, à grands coups de moteurs diesel, de bétonnage en règle du littoral. Tico est un des derniers à résister à cette modernité galopante. Et c'est aussi le moment où il retrouve son ami requin.
The village was burning. This was ordered by Mr. Yen's grandson, young Jeff, who had just inherited the old man's estate, but not his wisdom. He wanted to change our island, so he bought the village and he burned it. I lived where I belonged, on the water, on the banks of my lagoon. I found again the peaceful way of life our people knew long ago. A life that was governed by the power, generosity of the sea.
Alors oui, petit disclaimer, je n'ai ce film qu'en italien sous-titré anglais. Tico et son requin est bien sorti en France dans les années 60, des affiches l'attestent, mais n'a jamais à ma connaissance eu le droit à une ressortie sur quelque support que ce soit, ni VHS, ni DVD. Et ce, même dans son pays d'origine. Il est aussi sorti d'ailleurs un petit peu partout dans le monde, J'ai vu des versions aux États-Unis, au Japon, où il a même eu droit à une chanson originale, en Australie. Un gros succès, mais le film a été hélas oublié, alors heureusement pour nous, il reste un passage à la télévision dans son pays d'origine. C'est probablement cet enregistrement que j'ai récupéré, avec des sous-titres anglais, ce qui me facilite un petit peu la vie.
Bon, j'ai quand même réussi à toper une bande-annonce en anglais de plus de 3 minutes qui révèle quasiment tout le film, et un long extrait, donc je vais piocher un petit peu là-dedans pour pouvoir vous diffuser quelques extraits en anglais qui seront peut-être plus compréhensibles que les extraits en italien.
Je reconnais que ça fait parfois curieux de voir des Polynésiens qui parlent italien pendant tout le film. Cela étant, on aurait tort de bouder son plaisir, tant le film est plutôt une bonne surprise. Il a été réalisé avec soin et un véritable amour de son sujet par Folco Quilici, un réalisateur de documentaires italiens, qui a beaucoup tourné notamment dans les fonds marins, c'était sa spécialité. Alors ses plans et ses mouvements de caméra sont beaux. Soigneusement composés pour créer des tableaux qui permettent de saisir toute la beauté sauvage de la Polynésie des années 60. Mais aussi d'appréhender la vie quotidienne des habitants. Et c'est là qu'il faut se replacer aussi dans le cadre de la sortie du film dans les années 60. À cette époque-là, on voyage pas facilement. Je sais pas si vous avez connu les séances au cinéma Connaissance du Monde. C'était des soirées où un conférencier venait vous montrer un film sur les Indiens de la Cordillère des Andes ou sur les splendeurs des temples khmers.
Ça existe toujours d'ailleurs, et ça draine surtout des retraités de nos jours. Mais de mon temps, dans les années 80, ça faisait un petit peu rêver dans les cinémas de sous-préfecture. Le genre de production qui vous équitait votre pavillon de banlieue pour des ailleurs ensoleillés et inabordables. C'était un genre à part entière. Mais il serait mensonger de réduire Tico et son requin qu'à une simple excursion tropicale. Ce film dépasse le simple cadre documentaire et a un véritable propos. Il rejoint clairement le texte fondateur de l'ethnologue Claude Lévi-Strauss, Triste Tropique, et sa dénonciation de l'arrivée brutale de la civilisation occidentale dans les sociétés traditionnelles. Dans le film, celle-ci est matérialisée dans un premier temps par les touristes, pas forcément d'ailleurs armés de mauvaises intentions, dont l'arrivée sur l'île, appareil photo à la main, transforme irrémédiablement dans ces pêches traditionnelles en spectacle de foire, jetant des pièces à la mer pour que les enfants se battent pour aller les repêcher, s'amusant de voir des poissons cornus de lagon sur lesquels on empale des noix de coco pour nager de façon désespérée jusqu'à épuisement. Et puis il y a l'arrivée de la modernité, incarnée par Yen, le frère de Diana. Il y a la destruction du village traditionnel pour laisser la place à des baraquements modernes, des bateaux à moteur qui transforment la communauté en employés dociles de la société. Et les retrouvailles entre Tico, Diana et Manidou le requin, une fois à l'âge adulte, symbolisent aussi la nostalgie de ce paradis perdu, l'idéalisation d'une vie simple et rousseauiste dans une nature nourricière et protégée.
Here he comes. It's all right, Diana. Don't be afraid. I told him about you. Tico, what did you say? I told him I liked you and that I wished you were my sister. I knew he was hungry. Good, Manito. Wag your tail. Show this American lady how smart you are.
Ce qui pour autant ne nous épargne pas la réalité de la pêche traditionnelle filmée en live, avec force vrai requin transpercé de lance et exhibé fièrement comme trophée. Après tout, c'est le mode de vie mémorial et on découvre au passage des méthodes de pêche aujourd'hui révolues, comme par exemple effrayer les bancs de poissons avec les reflets sur les nacres des coquillages pour les précipiter dans les filets ou dans les bras des pêcheurs réunis pour l'occasion. Alors en plus, à titre personnel, y a deux choses qui vont me toucher plus particulièrement. D'abord parce que je suis prof d'histoire,
et donc ça permet un petit peu de découvrir un passé désormais disparu. Et aussi parce que j'ai vécu 2 ans dans mon enfance en Polynésie, donc je retrouve aussi des choses que j'ai vues dans les années 80, même si déjà le Tahiti de l'époque était transformé en une grande zone bétonnée, avec les croisières de touristes qui débarquaient régulièrement. Alors pour l'anecdote, le film est tiré d'un roman qui date de 1941, et dont l'action se passe non pas en Polynésie, mais en Martinique. Tikoyo, avec un C et non un K, et son requin de Clément Richer, un auteur un peu oublié, y compris sur son île natale. Mais qui a connu un véritable succès littéraire entre les années 30 et 50. Métis aux allures de dandy, ami de Cocteau, plusieurs fois primé pour ses récits d'aventure et de voyage, souvent assez amoureux, il aligna quelques best-sellers, dont ce Tikoyo qui raconte de façon assez ironique comment, grâce à son amitié avec un requin, un enfant pauvre mulâtre qui vit en pêchant les piécettes que lui jettent les touristes, au début du siècle va réussir à faire son trou, notamment en faisant manger la concurrence par son copain requin, puis en épousant la fille d'un riche béquet pour devenir une figure locale. Un livre teinté d'humour et chargé d'exotisme qui fut d'ailleurs un grand succès en Italie quand il fut traduit en 1951. Ce qui explique que quasiment 10 ans plus tard, ce soit les Italiens qui se soient lancés dans cette adaptation très libre, enlevant d'ailleurs tout le côté grinçant et amoral pour lui donner un aspect beaucoup plus lisse, un aspect de film pour la jeunesse, et d'ailleurs ce film est toujours projeté dans des festivals en Italie ou en Suisse italophone. Le film bénéficie d'un vrai soin. Quilici, documentariste naturaliste passionné par la mer, a fait appel au célèbre auteur Italo Calvino pour réécrire le scénario et les dialogues et leur donner une portée plus mythologique, plus philosophique. Le film a un souffle, même si évidemment c'est un film pour enfants et que le rythme, au regard de ce qui se fait en 2019, peut paraître désormais un peu lent. Il a été tourné à Anguera, dans l'archipel des Tuamotu, avec des acteurs locaux, amateurs, mais qui, faute de débouchés cinématographiques sur l'île, ne feront pas véritablement carrière. Ce qui n'empêche pas qu'ils ont pas mal de charisme et qu'ils sont vraiment agréables à suivre. Ajoutez à ça une très belle musique de Francesco De Masi, dans le genre symphonique qui se faisait à l'époque, et vous obtenez un film charmant. Un film qui, certes, accuse son âge, mais qui permet aussi de se replonger dans un monde très différent. Ah, évidemment, la limite, c'est que c'est pas vraiment un film de requin-tueur. C'est un petit peu ce qui peut manquer. Mais bon, de temps en temps, un requin amical, c'est tellement agréable. Pour l'anecdote, le film a quand même frappé les mémoires en Italie, puisque Dino De Laurentiis et sa fille Raffaella vont produire un remake en 1979, Beyond the Reef, qu'on connaît aussi parfois sous le nom de Sharkboy of Bora Bora. Alors, il faut savoir en plus qu'en France, il n'est sorti qu'en DVD, sous une jaquette absolument mensongère appelée Alerte aux requins, qui le ferait passer pour un film d'attaque de monstres. Alors que c'est le remake du film pour enfants de Quilici. N'importe quoi. Enfin, quand on le tirera au sort, celui-là, on en reparlera. Generosity of the sea. Shark! The Tico still in the water! Big shark! Come back, Tico! I dropped my harpoon and went to meet the shark. I touched him lightly. And he passed once again, close and gentle. And I was sure of it. It was him. It was really him. Manido. There he is! Stay away, Tico! I am going to spear him! Don't! Don't! He's not dangerous! It's my sh... Alors, quelles sont les capacités squalographiques de Tico et le requin? Originalité, c'est acquis. Une amitié avec un requin, c'est pas si fréquent. Surtout que le cadre polynésien rajoute encore un petit peu à l'exotisme de l'ensemble et à la nouveauté. L'histoire, elle, est insuffisamment acquise. Justement, l'histoire est simple, très simple. On est quand même dans un conte pour enfants. Les personnages sont en cours d'acquisition. Eux aussi sont simples, mais charmants. D'autant que les acteurs qui les interprètent, que ce soit les enfants ou que ce soit les adultes, sont vraiment attachants, charismatiques, et on se laisse porter par la belle histoire d'amour entre Tico et son requin, et entre Tico et Diana. L'ambiance est en cours d'acquisition. Alors certes, il y a des lenteurs, mais il y a l'atmosphère polynésienne, on découvre le mode de vie, on est avec les Polynésiens. La réalisation elle aussi est en cours d'acquisition, elle est belle, elle est ample, elle est soignée, comme les documentaristes savent les faire, mais elle ne va pas beaucoup plus loin, notamment dans le traitement des personnages. Et puis il y a parfois aussi certains raccords entre les images sous-marines et celles qui ont été tournées à l'extérieur qui pêchent un peu. Le requin, eh bien, il est insuffisamment acquis. Manidou le requin qui fait des clins d'œil, il est mignon. Mais on voit bien quand même que c'est pas toujours la même espèce de requin d'un plan à l'autre. Pour l'époque, les images sous-marines restent belles quand même. Ce qui nous donne un total de 11 points, je rajouterai 1 point et demi. Eh bien, nous sommes à 12 et demi, nous avons un bon film. Oui, le film date de son époque, mais il nous transporte dans un univers qui est en passe de disparaître avec un coup de paradis perdu. Un peu comme un Bounty, en fait. Enfin, Tico et son requin, c'est un beau film pour enfants, injustement oublié, devenu invisible chez nous. Et c'est bien dommage, notamment pour l'histoire du cinéma polynésien, parce que même si le film est italien, il semble qu'il ait eu quand même pas mal de succès à l'époque, un petit peu partout dans le monde, et qu'il ait eu un impact sur le tourisme dans la région. Et oui, là on peut peut-être lancer un appel, mesdames, messieurs les producteurs, il serait temps aussi de se replonger dans le patrimoine. Bon, j'espère que le prochain film saura faire preuve de la même candeur, de la même innocence, pour nous offrir un beau spectacle qui fait rêver. Oh merde, Sharknado 3, oubliez.
Le président a besoin de vous immédiatement.
Vous pensiez que c'était terminé?
Ton mari ne devrait pas être là.
Je suis avec les services secrets.
Fais attention à toi.
Que vous ne verriez plus jamais ça.
Qu'est-ce que vous faites, Simper, peur à tous?
Mais le phénomène du siècle...
Monsieur Shepard, vous devez le rejoindre tout de suite.
Le président des États-Unis...
va se reformer.
Il serait prudent de rentrer, monsieur le président. Tout de suite.
Pour tout détruire.
Oh, il y en a partout!
Vite! Qu'allons-nous faire maintenant? Nous battre. Si la tempête va vers le sud, elle va augmenter en chaleur et en force.
Non, c'est pas terminé. Ça le sera pas tant qu'on n'aura pas compris le phénomène et pourquoi il se reproduit sans cesse.
Ce sont donc toutes les villes de la côte est qui sont en alerte rouge.
Papa, j'ai besoin de ton aide.
Findig, vous travaillez à la NASA?
Jonesy, l'Independence va bientôt décoller.
Les requins déclarent la guerre jusque dans l'espace.
Je surveille l'arc.
Tu n'es pas le seul héros de la famille.
Je vais revenir.
Tu me le promets.
Sharknado 3.
Joli.
Mercantilisme, doctrine qui prône l'essor du gain d'argent par tous les moyens commerciaux. Vraiment tous. Putain, j'avais oublié qu'il commençait en parodiant le gun barrel des films de James Bond avec une gueule de requin à la place du canon de flingue et un film qui dégaine une tronçonneuse. Oh, ça va être long. Le premier avait un peu de fraîcheur, le deuxième sentait l'opportunisme, vous pensez pour le troisième. Finn et Apple Shepard et toute leur petite famille sont de retour, alors que les tempêtes de requins reprennent de plus belle. D'abord à Washington, où Finn et le président des États-Unis font équipe pour blaster du squale à la mitrailleuse et au shotgun, détruisant au passage tous les bâtiments disponibles. Et puis, une fois parti de Washington, dans un parc d'attractions à Orlando, où toute la famille s'est enfuie, et où April est sur le point d'accoucher. Tout cela permettant de comprendre que les Sharknado sont en fait un genre de châtiment divin, façon plaie d'Égypte. Et je serais Dieu, je châtirais franchement l'humanité pour avoir fait des films pareils. Enfin bref, une chose en entraînant une autre, sans forcément qu'elles aient de rapport entre elles, ce sera le prétexte pour partir dans l'espace, rejoindre le père de Finn, incarné par David Hasselhoff, pour trouver le moyen de résoudre le problème. Avec des tronçonneuses laser.
Joli.
Independence, ici Houston, nous pouvons fermer la trappe à distance. Répondez.
Finn, reviens.
Independence, répondez. Finn, je suis là. Nous pouvons prendre les commandes de la navette et vous ramener sur Terre.
Finn! Regarde,
nous pouvons rentrer! Finn! Comment peuvent-ils survivre dans l'espace? Comment peuvent-ils survivre dans une tornade?
Nous devons retourner dans la cabine de pilotage!
Oh, et puis plus rien à foutre. Ça marche, on slash, on fait n'importe quoi, et hashtag trollol. Et encore ce 3, il est meilleur que les suivants. En assumant complètement son aspect what the fuck, sans se poser trop d'autres questions que est-ce que ça va être fun à l'image et nous offrir des money shots dans la bande-annonce. On est là au cœur du système The Asylum, que j'ai déjà largement traité dans les précédentes émissions. Je me demande même si un jour faudra pas que je fasse une émission spéciale sur eux, mais dans ce cas-là, il faudrait que je commence à enquêter vraiment sur leur méthode. De l'esbrouf, des effets spéciaux volontairement moches en cascade, des gustards un peu has-been sur le retour. Pour vous dire à quel point ils rusent pour nous vendre leur Kaamelott, lors de la diffusion télé, ils n'hésitaient pas à carrément mettre les hashtags à retweeter à l'écran pour faire le buzz sur Twitter. J'ose à peine imaginer ce qu'ils seraient capables de faire si un jour ils touchaient la quête d'Hits. Aux manettes, tout ça est toujours chaperonné par le tandem Thunder Levin au scénar et Anthony Seferante à la réalisation. Quand on parle de film d'auteur, ça reprend le canevas de ses prédécesseurs à la lettre, et finalement, j'ai pas grand chose à ajouter, à part des soupirs de tristesse, très probablement. Or, je pourrais vous faire la liste de toutes les guests qui viennent faire le coucou le temps d'une scène. Des acteurs un peu has-been, comme Boderek, David Hasselhoff, Lorenzo Lamas, Lou Ferrigno, des pilotes de NASCAR ou des catcheurs comme Chris Jericho, Frankie Muniz de Malcolm, le pauvre, sa carrière, une horreur, les magiciens Penn & Teller, Gérard Martin de Game of Thrones, Jerry Springer, et même Bruno Salomon, qui est venu faire un petit coucou dans une télé en technicien français de la NASA, parce qu'en fait il faisait des vignettes de présentation assez drôles d'ailleurs, qui s'appelaient Les Impitchables, sur Sci-Fi Channel France, pour présenter les pires films, estampillés généralement The Asylum, que la chaîne diffusait. On en trouve plusieurs sur YouTube ou Dailymotion, je vous mettrai quelques exemples dans les références de l'émission. Vous verrez, c'est assez sympa, il y a des acteurs invités comme Lee Sin-Moon, tout ça. Ça se laisse regarder gentiment. Vous voyez à quel point c'est n'importe quoi dans le choix des guest stars. Ils avaient même proposé le rôle de président des États-Unis à Sarah Palin. Vous vous souvenez de Sarah Palin ? Et même à Donald Trump, qui à l'époque était pris pour sa campagne. Et au final, ça a été donné à un milliardaire, Mark Cuban, qui est en fait le fondateur de Yahoo et un propriétaire d'équipes de sport très connues aux États-Unis.
On m'appelait le requin. Et maintenant, je suis considéré comme un symbole d'espoir et de changement. Et vous savez, c'est une grande responsabilité, Finn. Mais vous vous habituerez aux projecteurs.
Je peux supporter les projecteurs. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. Washington est en danger.
Comment ?
Je sais que ça a l'air insensé, mais je reconnais ces tempêtes maintenant. La baisse de température, l'humidité et la formation de ces nuages. Ces requins ont une odeur et elle n'est pas bonne.
J'ai perdu un ami à New York.
J'en suis désolé.
À chaque fois que le vent arrive de l'Atlantique, je suis inquiet. Annonce-t-il le prochain ouragan qui détruira tout ?
Ah, ils voyaient pas un agenda politique, hein. Oulah, c'est pas de ça chez The Asylum. Il s'agit essentiellement de faire parler, faire parler, faire parler. Le bon hashtag au bon moment. Et je vous fais grâce des placements produits sur quasiment tous les plans. La bande originale, habituellement, qui est plutôt chaperonnée par Chris Cano et Chris Redenauer, hein, les deux grands compositeurs maison de la firme de Burbank, a été ici remplacé par un montage de chansons de tous les petits groupes de college rock, de garage rock, même un petit peu de synthwave, qui voulaient bien faire un petit caméo, et puis bah, échange de bons procédés. Après tout, je suis à peu près certain qu'ils ont pas dû payer bien cher les morceaux en échange de visibilité sur Internet. À l'époque, ils ont même poussé le bouchon jusqu'à essayer de faire un crossover avec une autre franchise qui n'a pas aussi bien marché, celle des Lavantula, avec un croisement de tarentules et d'éruptions volcaniques. Le personnage de Finn faisant une petite apparition dans un de ses films. Alors la série est à son top de popularité et d'opportunisme commercial, et à l'écran, on retrouve quand même ce sentiment constant d'épuisement qu'on avait un petit peu déjà dans le 2. Il s'agit que ça bouge, il s'agit d'avoir une avalanche d'événements sans queue ni tête, hein, comme un hochet qu'on agite devant un bébé pour garder son attention. Alors dans mon souvenir, le 3 restait un peu comme le meilleur de la série après le 1. Mais après l'avoir revu, en fait, eh ben je dois déchanter un peu. Pour préparer le podcast, je me suis refait quand même un petit peu une partie des films. On en a déjà chroniqué 4 avec celui-là. Il est juste dans le même ton de connivence et de perpétuelle agitation des autres. Simplement, c'est que le 4 et le 5 sont vraiment au bout du rouleau et ils ont puisé le concept. Le 6 ayant la gentillesse de fermer la marche, puis on a un peu de tendresse parce qu'ils arrêtent les frais. Le 1 au moins avait pour lui l'originalité, le 2 poussait le délire un peu plus loin, le 3, on a poussé les potards au maximum, mais bon, l'effet de surprise, il est quand même déjà parti. Alors, on est quand même à chaque fois dans le n'importe quoi total, on se retrouve même avec un final et des requins dans l'espace. Alors, vous allez me dire comment les requins, ils respirent dans l'espace, les personnages se posent la même question, puis décident que, de toute façon, s'il y a déjà des requins dans des tornades, pourquoi les requins, ils seraient pas dans l'espace ? Et voilà, fin de la discussion. Alors tout le monde fait son taf honnêtement, hein, les acteurs, il faut bien remplir les heures Pôle emploi, mais ils ont l'air quand même de s'amuser, ça c'est un truc que j'ai remarqué dans la série Sharknado. Je pense que l'ambiance va être assez sympa sur le tournage, et Anthony Seferante et Thunder Levin semblent être quand même un peu des bouts en train, assez fanas de rock rigolo, de fêtes sur le tournage. Je ne serais pas étonné justement que ce côté un petit peu familial de la série, dans le sens où il y a vraiment une volonté de créer un esprit de connivence entre les personnages, malgré six films qui sont complètement débilos, d'essayer de tenir un bout de fil narratif, montre que les gens qui le font, quoi qu'on dise de leur mercantilisme, on sent quand même parfois un certain plaisir à être là. Après tout, vaut peut-être mieux dégommer des requins dans une tornade que bosser à l'usine. Je vais pas épiloguer des heures sur le film, le canevas est connu, répété ad nauseam dans le 2, dans le 3, dans le 4, dans le 5, dans le 6. On se déplace dans un endroit, toutes les 15 minutes, vous avez une nouvelle attaque de requin, un guest star apparaît, commence à déblatérer 2-3 bêtises, et hop, un requin lui tombe dessus et le bouffe. Et on passe à la phase suivante, Finn prend la tronçonneuse et va découper quelques requins pour protéger sa famille, qui se retrouve dans un lieu suivant, et de nouveau attaqué, etc., etc., etc. Alors je sais que la série est détestée par tous les amateurs de série B, moi je commence vraiment à en gaver parce que je les vois à la chaîne, même si j'ai moins de détestation que la moyenne des nanardeurs, comme j'ai déjà dit pour les précédents épisodes. Juste une fatigue devant la surenchère perpétuelle et devant, finalement, une recette qui est d'un calibrage assez terrifiant.
La liaison avec Washington fonctionne toujours. Super, tu nous les envoies ?
C'est parti.
Tu parles. Avec Nova, on a conclu un pacte. On ne peut pas révéler d'où nous viennent
j'ai
nos informations.
J'ai un constat au centre climatique. Ce que nous avons fait, ce que nous faisons et ce qu'on pourrait refaire, c'est très controversé. On nous reproche d'avoir jeté des sales bombes dans la tornade, mais les dommages collatéraux des tornades en elles-mêmes sont bien pires que tous ceux des bombes. Et puis au final, entre la cinglée et son stress post-traumatique dû au requin, son génialissime meilleur ami et l'homme à la tronçonneuse, il n'y a personne de plus efficace.
T'as beaucoup changé, on dirait.
Alors, les capacités scolographiques de Sharknado numéro 3, originalité... Insuffisamment acquis, alors je lui mets finalement un petit point de plus que son prédécesseur pour la scène dans l'espace, que là j'ai vraiment trouvé portant très très loin le nawakisme, là, bon. L'histoire non acquise, hein, on va d'un point A à un point B, dans le point A on rencontre une tempête de requins, dans le point B on rencontre une tempête de requins, etc., etc., etc. Les personnages sont insuffisamment acquis... on a donc Finn, April et toute la famille, et puis des caméos très caricaturaux qui passent juste le temps de se faire bouffer. L'ambiance, elle aussi, est insuffisamment acquise, trop d'action, tout d'action, on est quand même dans un film qui devrait prendre sa ritaline. La réalisation, insuffisamment acquise aussi, on s'appuie exactement sur ce qui a déjà été fait, et finalement, quand on a vu le 2, il n'y a rien de franchement neuf. Pas vraiment d'idées nouvelles. Les requins, eux, sont en cours d'acquisition. C'est un peu meilleur que dans le 2, où là, les requins étaient franchement moches. Ils se sont un petit peu améliorés, et on a quand même une belle collection de requins qui tombent du ciel. Ça pixait toujours un peu, et les incrustations sont ce qu'elles sont, mais bon, voilà. Allez, 6 points, je lui rajoute un demi-point, parce qu'il m'arrachait de temps en temps quelques sourires, à force de faire du carpet bombing de blagues. Il finit quand même de temps en temps par toucher sa cible. 6,5, c'est nul. Et on commence franchement à arriver au point de saturation. Le 4 et le 5, je pense que je serai encore plus sévère, d'autant que dans mon souvenir, il y a cette fois-ci vraiment plus d'idées nouvelles, même dans l'escalade de la débilité. Et quand je pense quand même que c'est considéré comme la production de prestige de The Asylum. Ça fait peur. Allez, retour à la boîte à requins. Que vas-tu nous trouver pour la prochaine fois, alors ? Landshark 2017, Marc Polonia. Du micro-budget tout pourri. J'avais terminé les Brett Kelly, j'attaque les Polonia. C'est pas bon. Ensuite, on y croit. La mort au large, 1980, Enzo G. Castellari, retour en Italie, retour peut-être pour le meilleur, ou pour le moins pire, des films de requins italiens. On va se régaler. Surtout qu'après Landshark, de toute façon, n'importe quoi vous paraît bon. Alors, quelques recommandations au passage. Un podcast, le Vidéoclub de Castle Rock. Alors, je vous avais parlé des adaptations de Stephen King au ciné au travers de l'excellent bouquin de François Coe, mon camarade de Nanarland. On est dans la même veine, Issam et Chris tirent à chaque fois un film adapté de l'œuvre de Stephen King et le comparent au livre original. Alors je connais très mal Stephen King, je suis en pleine lecture du bouquin de François, et ce podcast est un complément. Les deux vont très bien ensemble. Et puis sur YouTube, Zoanima, conseillé par l'excellente chaîne de Monsieur Bobine dont je vous avais déjà parlé, à la fois faisant un travail pédagogique dans un lycée à Nîmes, et en même temps décortiquant des films avec énormément d'acuité. J'ai commencé comme Monsieur Bobine le conseillait par l'aspect social dans les films de Ridley Scott et particulièrement dans Alien, et puis La fiancée du pirate de Nelly Kaplan, les films de Zulewski, Lucio Fulci, L'au-delà, Sidney Lumet. Très éclectique, vraiment très bien. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Alors, je sais que je mets un petit peu plus de temps en ce moment, on est plus sur 3 semaines que 2 semaines pour faire les émissions, mais j'ai beaucoup de boulot et c'est assez compliqué de pouvoir boucler véritablement à temps toutes les émissions. Bon, ne vous inquiétez pas, Shark Parade continue. Où est-ce qu'on peut se retrouver ? Eh bien, dans les podcasts Nanarland, bien entendu, sur Twitter, @ultimetrico. Et puis, je le demande pas souvent, je suis en train d'essayer de faire un peu plus de référencement sur l'émission, donc n'hésitez pas, mettez des étoiles sur iTunes, ou Apple Podcast, je crois que ça maintenant ça s'appelle comme ça, parlez-en autour de vous, communiquez l'émission, mettez des commentaires, mettez des pouces bleus, des étoiles, des fourchettes au goût et bio, bref, n'hésitez pas à faire parler de chaque parade, les requins vous en seront éternellement reconnaissants et vous laisseront nager tranquille pour vos prochaines vacances. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner.